Émilien Verdon.
Moscou recommande toujours d'attendre les résultats de l'enquête sur l'origine du crash de l'avion de ligne d'Azerbaïdjan Airlines au Kazakhstan. Mais le directeur de l'agence russe du transport aérien a précisé hier qu'une attaque de drone ukrainien avait visé la ville de Grozny au moment où l'avion devait y atterrir. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
Accusé d'avoir abattu par erreur l'avion de ligne d'Azerbaïdjan Airlines qui effectuait la liaison Bakou-Grozny avec un missile de défense aérienne, Moscou semble préparer sa défense. Les autorités russes ont reconnu vendredi pour la première fois qu'une attaque de drones ukrainiens visait les villes de Grozny et de Stavropol dans le Caucase russe au moment où l'appareil devait se poser. Selon le patron de l'agence fédérale russe du transport aérien, les avions survolant la zone ont immédiatement reçu l'ordre de se déporter sur d'autres aéroports, mais n'a pas pour autant exclu toute responsabilité de la Russie. Les résultats préliminaires de l'enquête font état d'une interférence externe, physique et technique ayant entraîné la chute de l'appareil. Du côté de Bakou, les autorités précisent qu'une enquête est en cours pour déterminer si cette interférence découle d'une frappe antiaérienne russe ou d'une autre cause. Moscou recommande pour sa part d'attendre les conclusions de l'enquête, même si les images du fuselage montrent des trous qui sont normalement causés par des missiles de défense aérienne. Jean-Didier Revoin pour RTS, Moscou.
Après un raid israélien, le dernier grand hôpital opérationnel du nord de la bande de Gaza est hors service. Déclaration hier de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui précise que 25 patients dans un état critique se trouvaient toujours dans l'établissement. Elle fait également état de services hospitaliers incendiés. L'armée de Tsahal avait annoncé le même jour avoir lancé une opération contre des combattants du Hamas près de ce bâtiment de soins. Il est le nouveau secrétaire général du Conseil de l'Europe depuis 3 mois et dit notamment concentrer son action sur la guerre en Ukraine. En une année, Alain Berset s'est rendu 3 fois sur place. Il n'y a aujourd'hui aucune zone sûre dans le pays, selon ses mots, après avoir assisté à plusieurs reprises à des alertes aériennes de jour comme de nuit. Le département fédéral des affaires étrangères devra à nouveau se pencher sur le cas d'un combattant de l'État islamique et ressortissant suisse. Il est détenu en Syrie et souhaite être rapatrié. L'administration fédérale avait dit non. Le tribunal fédéral lui demande de revoir sa copie. Elle devra désormais tenir compte du danger qui pèse sur lui dans la situation actuelle en Syrie. Dans le canton de Neuchâtel, le lac des Théières à la Brévine est gelé depuis plusieurs jours. Les amateurs de glisse attendent souvent ce moment pour s'élancer sur la patinoire naturelle. Mais attention, le lac n'est pas praticable. Pascal Schneider est le gérant du magasin Siberia Sport à la Brévine. Lorsque l'épaisseur de la glace est contrôlée, il tient une caravane de location de patins. Mais pour l'heure, pas de contrôle à cause de la neige.
Alors là, prudence, il est gelé, c'est sûr. Il a fait quelques nuits, comme ce matin, il y avait moins 20. Et il est gelé depuis une dizaine de jours. Mais il a neigé dessus. Donc une fois qu'il a neigé dessus, ça fait comme un tampon d'isolation. Donc après, elle gèle beaucoup moins. Et surtout, elle n'est pas praticable pour le patin au large parce qu'il a neigé quasiment 30 et 50 cm sur la glace. On y va vraiment le patin quand la glace est belle lisse, belle noire, que les conditions sont 100% réunies par rapport à ça.
Et s'il y a des gens qui s'aventurent à aller marcher sur le lac, à quoi est-ce qu'ils doivent faire attention?
Alors, c'est toujours un peu compliqué quand il fait 2-3 nuits à moins 20. Tout le monde imagine que le lac des Théières est gelé toutes les années avec une épaisseur de glace de 30 cm. Et c'est pas toujours le cas. Il y a des endroits où il y a des sources. Il y a des endroits où elle gèle moins que d'autres, où c'est au soleil. N'importe quel lac gelé, il faut vraiment être prudent au niveau des épaisseurs de glace quand il n'est pas contrôlé.
Le lac des Théières, sujet réalisé par Déborah Solbank. Les virus hivernaux sont de retour. Les cas de grippe ont été multipliés par 2,5 en 15 jours. La Suisse romande est particulièrement touchée. Qu'entendez-vous en tête avec près de 23 cas pour 100 000 habitants, plus du double de la moyenne nationale. Et ce n'est que le début. Le pic pourrait être attendu fin janvier ou mi-février. En hockey sur glace, Fribourg-Gotteron a battu hier les Finlandais du Kärpät Oulu 6-4 à l'occasion de son deuxième match à la Coupe Spengler de Davos. Une victoire qui a le mérite de relancer les dragons, Steve Roth.
Le vestiaire fribourgeois respire mieux. Après la défaite initiale au tir au but contre Pardubice, Gotteron a rectifié le tir face aux Finlandais de Kärpät Oulu. Mais rien n'a été simple pour les dragons, parce que le premier tiers a vu une équipe fébrile devant un jeune gardien, Loïc Gallet, en difficulté et dont la responsabilité est engagée sur 2 des 3 réussites finlandaises. Mais au lieu de sombrer, Fribourg a réagi en équipe. Emmenés par leur second couteau, les défenseurs Dave Souter et Benoît Yecker en tête, les fribourgeois ont retroussé leurs manches pour retourner la situation en leur faveur. Au final, une victoire victoire 6-4 méritée et encourageante. Avec cet état d'esprit sans faille, Fribourg redevient Gotteron. La suite de son parcours dans cette Coupe Spengler dépendra du résultat du match entre le Dynamo Pardubice et Kerpet Oulu cet après-midi. Un match que les Fribourgeois suivront depuis leur hôtel, car après deux matchs en moins de 24 heures, des efforts intenses, souvent à courir après un score déficitaire, les Fribourgeois ont parfaitement mérité une journée de congé.
Et dans l'autre rencontre, Davos s'est également ressaisi. Les Grisons ont battu 5-0 les Allemands des Straubing Tigers. Et puis en tennis, la Suisse joue à Sinel à United Cup. Pour son entrée en lice dans la phase de poule, elle a battu la France 2-1. Belinda Bencic a ouvert la voie dans un premier simple remporté contre Chloé Paquet. Dominique Stricker avait lui perdu face à Hugo Humbert. Les deux Helvètes ont ensuite formé la paire pour remporter le double mixte décisif en deux manches. Sous le stratus, sur le plateau, sous le soleil ailleurs, voilà comment on pourrait résumer la météo du jour. Un brouillard qui ne devrait pas se dissiper. Il faudra monter à 800 mètres d'altitude ou se déplacer dans une autre région pour voir le ciel bleu. Le mercure affichera cet après-midi 7 degrés à Martigny, 2 à Nyon et 0 à Bienne. Demain, les conditions seront quasiment identiques et ça restera ainsi au moins jusqu'à l'année prochaine puisqu'aucune dégradation n'est attendue avant la fin de semaine.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. Merci. Merci de vous être mobilisés avec nous contre les violences faites aux enfants. Merci d'avoir contribué à leur offrir une enfance heureuse en Suisse et dans le monde. Ensemble, avec la RTS et la chaîne du bonheur, nous pouvons faire face à la maltraitance infantile parce que donner est un jeu d'enfant. Les dons sont encore possibles jusqu'à la fin de l'année sur coeur-rts.ch.
Avec la Fondation Groupe Mutuel et Raiffeisen.
RTS Première, 6h-9h le samedi. Karine Vasarino.
Bonjour, bonjour. Et en compagnie toujours de Sandra Tsimerdi.
Bonjour Karine.
Pour la revue de presse de ce samedi 28 décembre. Actualité rétrospective dans les journaux romans et alémaniques ce matin ou pas?
Mais pas que, non, non. Et on parle déjà de l'année prochaine. Et puis il y a même des scoops encore aujourd'hui. Non, non, n'allez pas trop vite Karine.
Donc une revue de presse riche ce matin.
Béton.
Dans Pixel, Anouch Setagia, fidèle au poste, nous rejoindra un peu plus tard. Il nous parlera du développement de l'intelligence artificielle aux voitures semi-autonomes. En passant par une hausse des cybermenaces, ça, voilà, c'est ce qui nous attend en 2025.
Super, comme d'habitude.
Dans le monde de la
hyper
tech.
Hyper rassurant, Anouche.
Sandra, vous connaissez la TCAI?
Attention.
La TCAI, c'est l'acronyme de Transcognitive Auto-Induite.
Yeah.
Bien, oui. Vous connaissez, c'est un état de transe réversible qui est accessible à toutes et tous. C'est une méthode qui aurait des capacités de guérison, écoutez.
De nombreux transeurs et transeuses vont partager par exemple que leur corps est capable de faire des mouvements qu'ils sont absolument incapables de faire dans un état ordinaire de conscience, qu'ils ressentent au moins la douleur, qu'ils sentent de la force décuplée.
Alors cette méthode de transe est actuellement à l'étude par les scientifiques et les universités. Samuel Soquet nous propose deux épisodes pour cette fin d'année. Guérir par la transe, ça vous
intéresse? L'hypnose, c'est un peu comme l'hypnose.
Effectivement, ça ressemble à l'hypnose mais c'est pas tout à fait ça. Il nous en parle tout à l'heure. On fait quoi ce week-end? Eh bien, on prolonge Noël avec vous, Delphine Gendre. Bonjour, vous nous emmenez à Estavayer-le-Lac.
Oui, bonjour Karine. Oui, effectivement, on profite du repos entre Noël et Nouvel An pour parcourir l'itinéraire des crèches d'Estavayer. C'est près de 100 créations qui sont à voir dans les rues de la cité médiévale fribourgeoise. C'est une tradition vieille d'une trentaine d'années déjà et qui connaît un très joli succès. Il y en a pour tous les goûts, des classiques sans ton, aux crèches en Lego par exemple. On en parle tout à l'heure.
Rendez-vous à 8h45, Delphine Gendre. Jonathan Asley-Bachar est en régie aujourd'hui. Vicky Garou est notre attachée de prod de la semaine et Stéphanie Ivanovitch à la programmation musicale. Il est 8h09, c'est l'heure de Swiss Good.
Swiss Good, les nouvelles qui font du bien.
Christophe Schenck, vous êtes là avec nous pour nous parler de trois infos locales et inspirantes tirées des émissions de la RTS. Bonjour Christophe.
Bonjour Karine.
Avec une voix la Barry White ce matin.
Eh oui, ma grosse voix d'hiver.
Ça vous va très très bien. Alors, c'est quoi aujourd'hui?
Alors, sans surprise, comme chaque fois, je vais démarrer avec une question,
oui.
Karine. Est-ce que vous allez parfois faire des balades ou des randonnées?
Parfois, oui.
Et quand vous faites ça et que vous avez une pause casse-croûte, qu'est-ce que vous mangez?
Je mange des sandwichs. J'aime bien Sandra Simmer qui m'engage, qui dit ouais, c'est ça. Sandwich.
Beach. Eh bien, une entrepreneuse genevoise, Mélodie Sirman, a eu l'idée d'upgrader un peu ses pique-niques qu'on prend avec soi et a développé des plats déshydratés qu'on peut facilement mettre dans son sac et réhydrater et même réchauffer pour savourer un repas chaud en rando. Ça s'appelle Alpibrek et on en parlait il y a quelques semaines dans la chronique Eureka.
Un projet né d'une double passion, la randonnée au long cours d'un côté, la cuisine végétarienne de l'autre, d'un double constat aussi en matière de plats déshydratés pour les fans des activités outdoor. L'offre végétarienne est limitée, souvent ces snacks sont perçus comme peu goûtus ni suffisamment nourrissants.
Et qu'a-t-elle décidé de faire ?
Eh bien d'abord, de se lancer pour elle et d'en fabriquer, et puis de le faire aussi pour les autres, dans la préparation donc d'une gamme de repas artisanaux savoureux équilibrés, en privilégiant les ingrédients locaux en circuit durable, des repas faciles à préparer en amont, légers à transporter, et surtout simples et pratiques à transformer en aval. Un peu d'eau suffit.
Et il y a quoi alors au menu ?
Alors, une douzaine de repas, du salé au sucré, des pâtes bolognaises véganes au bircher musli, en passant par du curry rouge thaï, du chili sin carne, deux types de pancakes et même du houmous. Comptez 16,90 pour les repas salés, 12,90 pour le bircher et le granola, 9,90 pour les douceurs sucrées, à commander en ligne ou en magasin. 8 points de vente en Suisse romande spécialisés dans l'outdoor les ont mis dans leur assortiment. Et ce nombre de magasins devrait doubler l'année prochaine avec la Suisse alémanique.
Alors à noter que cette invention a valu à Mélodie Sirman le premier prix du concours IDEA à Genève qui récompense les entrepreneuses et entrepreneurs durables. Et je vous propose de rester dans la nature avec une autre info. Imaginez, Karine, dormir au milieu des champs ou de la forêt sans pour autant renoncer au confort d'une chambre d'hôtel. Ça fait rêver, non ?
Ah bah oui, complètement. On est dans une bulle ou non ?
Ah, et presque. Bah, c'est possible grâce à un concept développé à Mettenberg dans le canton du Jura. Et de l'extérieur, ça ressemble un peu à un porte-à-cabine planté dans un champ de lavande. Mais dès qu'on en passe la porte, c'est une toute autre ambiance, comme a pu le constater l'émission Couleur Locale.
Nichée près d'un champ de lavandin à Mettenberg dans le Jura, cette petite cabane ne paye pas de mine. Mais un indice sur son charme caché réside dans son nom, Snug. À une lettre près, cela veut dire douillet en anglais. Visite guidée avec son créateur.
On a tout d'abord un couchage, on a une partie salon et qui donne sur un coin feu, une cheminée avec un mini bar. Alors on rentre dans une salle de bain équipée d'une douche et puis un toilette à combustion.
Fabriqué dans le Jura avec des matériaux indigènes, autonomes en énergie et ne produisant aucun déchet, le Snug, c'est plus qu'une chambre d'hôtel de luxe, c'est un concept.
Ça va fonctionner exactement comme un hôtel. À la différence que d'être dans un seul bâtiment, on va avoir des chambres, des suites, qui vont être disséminées sur des spots naturels remarquables et qui vont pouvoir servir un confort digne d'un hôtel, mais en pleine nature. On va toucher aussi les personnes qui veulent tester la pleine nature, mais qui n'acceptent pas une certaine perte de confort.
Ah, c'est bien ça.
Petit bonus, quand vous vous réveillez le matin, c'est la ferme voisine qui vous livre le petit déjeuner avec des produits locaux et gourmands. Encore une question, Karine.
Oui.
Est-ce que vous savez ce que c'est que le biomimétisme ?
C'est s'inspirer de la nature, c'est ça ?
Exactement. Et c'est ce qu'a fait une équipe de l'EPFL à Lausanne pour améliorer les robots qu'elle développe, s'inspirer des oiseaux, ou plus précisément de leurs pattes, pour créer des robots qui volent, mais pas seulement. On écoute le reportage du 1930.
Si je plie sa jambe accroupie comme ça, il stocke de l'énergie dans le ressort. Puis pour sauter, il détend le ressort, libère l'énergie qui s'additionne à celle du moteur pour atteindre une vitesse de décollage plus élevée.
Décollage, mais autre mimétisme réussi aussi. La marche ou le saut. 26 cm homologué.
L'oiseau combine le mouvement terrestre et aérien. Il est unique en cela et peut se déplacer partout comme ça lui chante. On pourrait donc déployer ce type de véhicule pour des missions de secours, par exemple, ou des livraisons.
Imaginez un gros oiseau de carbone avec des marchandises dedans, oui, mais pas de passagers. L'accélération serait trop violente.
Il y a un autre défi qu'ils doivent encore résoudre, hein, c'est l'atterrissage. Mais pour ça, la solution pourrait encore venir du biomimétisme en s'inspirant cette fois-ci des ailes des oiseaux.
Merci beaucoup Christophe Schenk pour ces infos. Et si on en veut un peu plus, on peut toujours s'abonner à votre newsletter.
Exactement, il suffit d'aller sur rts.ch/SwissGood et le tour est joué.
Et on vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, on écoute un titre Feel Good. Ah, l'unique, Pharrell Williams.
Oh.
Get lucky.
legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Chanceux avec les Daft Punk et Pharrell Williams, Get Lucky.
J'ai acheté le journal, je reviens.
Eh ben, ça vous laisse le temps de prendre les journaux et peut-être même un petit café.
Oui, t'as pas oublié du côté le journal.
Quel journal?
La revue de presse, Sandra Tsimerli, on commence avec le scandale des falsifications de signatures.
Oui, le pschiss des signatures, comme titre le Tagesanzeiger, Zagir, le Bund et la Basler Zeitung. Alors en fait, on parle de la collecte des signatures pour les initiatives. Le scandale, peut-être vous en souvenez, a fait grand bruit en septembre dernier. Alors depuis, la chancellerie a renforcé les contrôles et visiblement ça porte ses fruits. L'initiative pour l'approvisionnement médical a été déposée à Berne le 3 octobre dernier, munie d'un peu plus de 131 000 signatures. L'objectif du texte, lutter contre la pénurie de médicaments. Mais là, n'est pas la question. Revenons aux signatures. Parmi ces 131 000 signatures, plus de 3600 ne sont pas valables. Et d'où vient la grande majorité des fausses signatures, si j'ose dire? 3300, en l'occurrence, de Genève. Avec une telle ampleur, les soupçons sont grands qu'on se trouve face à une falsification de masse professionnelle, écrivent les journaux.
Autre triche, les vols dans les commerces.
Oui, le chapardage augmente, mais les fouilles aux caisses aussi, titre 24 heures, c'est à lire aussi dans la tribune. La baisse du pouvoir d'achat provoque une hausse significative des vols en grande surface, plus de 24 000 en 2023, selon l'Office fédéral des statistiques. C'est presque 8 000 de plus qu'il y a 3 ans. Alors, les grands distributeurs multiplient les contrôles. Certains Lidl vérifient même scrupuleusement les sacs aux caisses. Ça provoque des files. Alors, certains clients s'impatientent. C'est pire qu'à l'aéroport, s'insurge une cliente. Alors, après les vols, les attaques, mais pas contre les caissiers ou les caissières, non, mais contre les policiers. À Genève, un tiers des agents ont déjà été blessés en service, selon le sondage d'un syndicat, rapporte la tribune. Celui-ci dénonce un manque de formation continue aux techniques et tactiques d'intervention.
Et cette revendication à présent, si l'exercice ne convainc pas, on arrête tout.
Oui, on peut même parler de menaces, comme le titre La Schweiz am Wochenende. Le PLR menace de tout stopper. Alors on parle de quoi ? De l'accord et avec l'Union européenne scellé et présenté il y a une semaine par le Conseil fédéral. Alors aujourd'hui, le président du PLR, Thierry Burkhardt, prend la parole. Le nouvel accord est meilleur que l'ancien. Il y a des progrès en matière de protection des salaires et de l'immigration, dit-il. Mais est-ce que cela va suffire pour convaincre son parti ? Le PLR se prononcera en juin. Par contre, et là, le président est très clair et le confirme déjà. Après 7 ans, le peuple doit pouvoir revoter. S'il y a du chantage par rapport aux mesures de compensation, on arrête tout. Donc, pouvoir se retirer de l'accord doit être une option, dit-il.
Ce qui est sûr, c'est une citation, on ne doit pas devenir une colonie européenne.
Oui, ça c'est la conviction de Marcel Dettling, le président de l'UDC, cette fois-ci en grande interview dans la tribune de Genève et 24 heures. Pour l'UDC, on le sait, c'est non à l'accord. Le président veut notamment replacer la question des juges étrangers au cœur du débat. Alors, si la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, elle est présente un peu partout en France. C'est l'ambassadeur de Suisse à Paris, Roberto Balzaretti, qui le dit dans Le Temps. Il est bien placé pour le savoir, peut-être que vous vous en souvenez. C'est lui qui a sillonné la France à vélo pour aller à la rencontre des gens, on a pas mal parlé, oui. Mais aussi pour faire rayonner la Suisse. Alors il revient sur ses 4 ans à Paris, parce que là il va partir pour Rome. Il revient aussi sur les JO, la maison suisse dans les jardins de l'ambassade. Certains avaient des craintes, or cela a été un succès incroyable, dit-il. 63 000 personnes ont traversé l'ambassade sans abîmer une seule planche, dit-il. Alors lui, il n'est pas ambassadeur, mais secrétaire général du Conseil de l'Europe. Alain Berset, dans le Blick, pour les 100 jours de son entrée en fonction. Alors l'ancien conseiller fédéral n'a pas perdu le sens de la formule, ouf. Le Conseil de l'Europe n'est pas un wellness center.
Direction à Davos maintenant ?
Oui, à la Coupe Spengler, mais pas pour parler hockey sur glace, non, mais attention, fondu, drapeau fribourgeois, yoba, enfin chant traditionnel fribourgeois, dans les tribunes, mais aussi dans les rues de Davos. Et il paraît que la petite ville grisonne, comme l'appelle la Liberté, est toute chamboulée par la participation des dragons, donc de Fribourg-Oteron, à cette 96e édition du fameux tournoi. C'est que des milliers de fans ont fait le déplacement au Grison, ce qui fait dire au journal ici, c'est un peu Fribourg, jusqu'au 31 décembre. Alors ici, ce n'est pas Fribourg, mais Dommartin, dans le Gros de Vaud. Et on ne voit pas une patinoire, mais un pré enneigé, le brouillard, les arbres givrés. Je vous montre la photo.
Ah oui, oh là là, il y a des chameaux.
Oui, exactement, deux dromadaires.
Dromadaires, pardon, chameaux à deux bosses.
Ouais, et voilà, c'est une de 24 heures, donc elle est assez incroyable cette photo. Alors on s'attendrait ces chameaux à les rencontrer sur les berges du Nil, mais non. Mounir et Kalessi, c'est leur nom, ont atterri dans cette ferme de Dommartin en provenance de Turgovie.
Mais pourquoi faire ?
Bah pour se promener dans les champs et faire plaisir aux passants.
Aux
alentours, exactement.
Autre photo un peu surréaliste en tête du temps.
Oui, alors est-ce que c'est un squelette ou un mammouth ? Vous allez m'aider, Karine. Peut-être plutôt un mammouth ou un dinosaure. Enfin, c'est un squelette, pardon. Mais est-ce que c'est un mammouth, un dinosaure ?
Ah.
On dirait un mammouth un peu.
Oui, je dirais
enfin,
ça.
Voilà. Et puis alors surtout ce titre, des femmes, des fossiles et une redécouverte. Alors en fait, on a longtemps pensé que la paléontologie était une affaire d'hommes. Alors pas tant que ça. Même si elles ont longtemps été tenues à l'écart des fouilles, eh bien les femmes ont brillé par leur contribution. Le temps les appelle d'ailleurs ces chasseuses d'eau, d'os, des pionnières à l'histoire contrariée.
Et quelques citations encore.
Oui, si vous ne vous prenez pas trop au sérieux, vous vivez mieux. Autrement dit, un soupçon d'ironie sur soi-même, ça fait du bien, paraît-il. En tout cas, c'est le credo de l'humoriste Christian Jott-Jenny. Il est dans la Schweiz am Wochenende. Et le monde, cette vaste blague, ça c'est le titre de la Liberté. Face à l'actualité sous mon sombre, le rire semble plus salutaire que jamais. Mais alors attention, hein, penser le rire comme une simple occasion de se taper les cuisses, c'est un profond malentendu, souligne un spécialiste. Et puis il y a la musique et la culture en général quand même. Arc Info vous présente déjà ses 10 rendez-vous incontournables en 2025. Alors attention, ça commence le 15 février déjà avec le technonirisme de Walter Astral. On connaissait bien sûr. Il paraît que le duo français avec son tourbillon musical hallucinogène vous rend heureux quelle que soit votre humeur du jour. Mais ceux que ça n'inspire pas trop, sachez que le lendemain, il y a déjà un quatuor baroque. Et ceux qui, à qui manquerait déjà Quincy Jones, les Françoise Hardy, Alain Delon. Eh bien voilà, une petite séance nostalgie. Tous ces artistes disparus donc cette année. Séance nostalgie dans la Tribune de Genève, mais un peu dans tous les journaux.
Merci beaucoup Sandra Zimmerli. Donc on a un beau programme pour cette année 2025. Et ça se poursuit avec vous Anouch Setaga. Et c'est la dernière chronique Pixel de l'année, rassurez-vous.
Je reviendrai, si vous le voulez bien.
Vous revenez en 2025, évidemment. Vous êtes journaliste autant spécialisé dans les nouvelles technologies. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler déjà de 2025, de l'année prochaine.
Oui, ce matin, je vais sortir ma boule de cristal et on va voir ensemble ce que nous réserve 2025 côté numérique pour le meilleur et aussi, vous allez le voir, pour le pire. Et puis bien sûr, on va commencer par l'intelligence artificielle. Cette année se termine un peu en folie. Hein. Les géants de l'IA viennent de lancer des services pour générer soi-même des vidéos pour dialoguer en direct par la voix avec une machine. Et aucun doute, cette fuite en avant va se poursuivre. Alors la grande question, ce sera la fiabilité de ces systèmes. Récemment, OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, a montré qu'il faisait des erreurs dans 60% des cas.
C'est quand même absolument pas mal, hein,
énorme, énorme, absolument. Alors on verra si ces modèles seront meilleurs l'année prochaine. Ces IA seront-elles capables de raisonner? C'est en tout cas le but des géants de la tech, hein, que les machines puissent résoudre des problèmes et accomplir des tâches complexes. Mais pour l'instant, on en est encore assez loin.
Bon, vous parliez aussi du pire à venir. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter?
Oui, j'ai un tout petit peu peur pour notre cybersécurité. Ces derniers temps, nous avons tous été submergés d'appels d'escrocs, de faux SMS ou encore d'arnaques par WhatsApp. Et à mon avis, la situation va se détériorer l'année prochaine. Les hackers vont devenir plus professionnels et utiliser des outils plus puissants. Et je crains que de plus en plus de gens tombent dans le panneau. Je suis toujours sidéré par le nombre de personnes qui croient que ces appels en anglais de la police sont bien légitimes ou alors que tous ces emails venant de la poste, de DHL ou du PS le sont aussi. Il faudra donc redoubler de vigilance en 2025 et on aura certainement l'occasion d'en reparler avec vous, Sandra Zimmerli.
Et vous avez une prédiction plus réjouissante quand même, Anouch?
Alors réjouissante, je ne sais pas, mais c'est en tout cas une certitude. Hein. La conduite automatisée va arriver en Suisse. Le Conseil fédéral vient de décider que oui, il sera possible de lâcher les mains du volant dès le 1er mars prochain. Alors si votre voiture dispose de logiciels de pointe, eh bien vous ne devrez plus surveiller en permanence le trafic sur l'autoroute. Mais attention, vous devrez être prêt à reprendre le pilotage à tout moment.
Il ne faut pas s'endormir.
Non, exactement. Et puis on pourra aussi avoir des visions un tout petit peu surprenantes dans quelques semaines. Imaginez la scène, Karine, sur une autoroute. À 120 km/h, un automobiliste vous dépasse, un sandwich dans une main et son téléphone dans l'autre. Rien que de le dire, ça fait un tout petit peu froid dans le dos. Mais voilà, on est encore très loin d'une conduite totalement autonome en tout temps. Et aujourd'hui, plus personne, même Elon Musk, n'ose faire de prédictions à ce sujet.
Il y aura aussi du nouveau sur les réseaux sociaux.
Oui, on en parlait beaucoup ces dernières semaines. De plus en plus de pays veulent interdire ces plateformes aux plus jeunes. Et en 2025, l'Australie ou l'Angleterre devront trouver des moyens concrets pour y parvenir. Alors, quelles solutions vont-ils essayer et comment les jeunes tenteront-ils de les contourner? Là aussi, ce sera absolument passionnant à suivre.
Enfin, Anouch Setaga, le vrai Anouch Setaga, vous n'êtes pas une intelligence artificielle, mais quand même, quel est le niveau de fiabilité de vos prédictions?
Eh bien, il est aussi élevé que celui d'une intelligence artificielle, en tout cas, c'est ce que j'espère. Récemment, une entreprise a développé un système pour prédire qui serait Miss France 2025. Alors, l'IA s'était basée sur la popularité des candidates sur les réseaux sociaux, la démographie ou encore la composition du jury. Alors, cette intelligence artificielle avait donné 68% de chances de victoire à Miss Guadeloupe, 56% à Miss Martinique ou encore 55% à Miss Nord-Pas-de-Calais. Eh bien, c'était plutôt bien vu, puisque c'est Miss Martinique, avec ses 56% de chances, qui a bel et bien gagné. Comme quoi, certaines IA sont déjà assez fiables. Moi, je ne sais pas. On verra bien.
Bravo, en tout cas, pour Miss Martinique. Effectivement, c'était presque ça.
Exactement.
À bientôt, Anouch Setaga.
À l'année prochaine.
À l'année prochaine. Merci beaucoup. C'était donc votre chronique Pixel qui revient.
Dans quelques jours.
Bonjour Samuel Soquet.
Bonjour Karine.
Vous nous proposez pour terminer 2024 une guérison par la transe. On est dans l'ambiance là avec cette musique du compositeur allemand Stockhausen qui s'intitule Helicopter String Quartet. Alors une guérison, c'est ça ?
Oui, je vais vous parler d'une approche scientifique de la transe qui est actuellement étudiée dans des universités, dans des hôpitaux. Et pour la petite histoire, cette musique qu'on entend, c'est une musique qui fait référence au livre de Corinne Sombrin, La Diagonale de la Joie, qui est un peu le récit de son épopée pour réussir à faire étudier en laboratoire la transe cognitive auto-induite.
Ah ouais, c'est aussi le fil rouge de votre série. Alors, je connaissais la transe chamanique, Samuel Soquet, mais pas la transe cognitive. Elle vient d'où ?
Elle vient justement du chamanisme, celui pratiqué en Mongolie, mais elle a été déritualisée et adaptée à un public occidental par Corinne Sombrin, qui est par ailleurs une musicienne.
Corinne Sombrin, qui a aussi fondé un institut de recherche.
Oui, c'était en 2019, elle a créé le Transscience Institute, qui rassemble plusieurs scientifiques et qui est dirigé par Audrey Breton, docteur en sciences cognitives. J'ai pu m'entretenir avec elle et je lui ai demandé ce qui caractérisait la transe cognitive auto-induite.
La transe cognitive, l'élément qui la caractérise surtout, c'est la notion d'auto-induction. Donc la transe cognitive auto-induite, ça décrit une méthode d'apprentissage du vécu de transe de façon volontaire, contrôlée, de façon décidée. Et surtout sans stimulation externe, sans substance particulière, sans voilà, c'est simplement par le biais de la volonté des humains. Et du coup, le terme transcognitif auto-induit, TCAI, décrit l'état vécu en appliquant cette méthode.
Alors, la première étude dans le cadre de cette recherche d'un cerveau sous transe, on ne parlait pas encore à l'époque de transe cognitive auto-induite, c'était plutôt une transe chamanique qui avait été adaptée pour les conditions d'un laboratoire, c'était en 2007. Elle avait été menée sur le cerveau de Corinne Sombrin par le professeur Pierre Florent-Henri à Edmonton, dans l'état d'Alberta au Canada. Est-ce que le cerveau, c'est le seul élément du corps qui est transformé par la transe ?
Non, alors évidemment que on parle d'un état non ordinaire de conscience. On va pas réduire la conscience nécessairement au cerveau, mais c'est sûr que le premier lieu d'étude de cet état, c'est évidemment mené dans le cerveau. Mais depuis, du coup, bah, par exemple, les premières recherches qui ont été menées sur Corinne, il y a maintenant une constellation de chercheurs qui se sont emparés du sujet de la transe auto-induite et de façon vraiment pluridisciplinaire. C'est-à-dire les neurosciences ne sont plus que la seule ou l'unique, le domaine qui a investi l'étude de la transe cognitive auto-induite.
On tend aussi à pousser des études plus cliniques, en fait. Comment est-ce qu'on peut aider des patients à vivre mieux ? C'est-à-dire la transe, non pas comme l'élément qui va soigner directement, mais comme un élément qui va aider les individus. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut améliorer la qualité de vie des patients, les fonctions cognitives, la stabilité émotionnelle d'individus qui sont en rémission de cancer ? Une autre orientation qui a présenté énormément d'intérêt, c'est celui des douleurs chroniques. Alors, la transe auto-induite, cognitive auto-induite, est un état de conscience ordinaire qui semble placer le corps vraiment très au centre de la pratique. De nombreux transeurs et transeuses vont partager, par exemple, que leur corps est capable de faire des mouvements qu'ils sont absolument incapables de faire dans un état ordinaire de conscience, qu'ils ressentent moins la douleur, qu'ils sentent de la force décuplée. Enfin, voilà, tous ces ressentis sont également à l'étude. Il y a une première étude exploratoire qui est menée, c'est des patients et des patientes qui souffrent de douleurs chroniques, pour voir si, alors, de façon peut-être un peu plus directe, si la TCAI, cette fois, a une influence sur la réduction de la perception de la douleur. Donc là, on avance petit à petit vers placer la transe comme l'élément qui soigne directement et pas comme l'élément qui entoure le patient pour l'aider en fait à se soigner. Parce qu'on a de fortes intuitions sur la pratique de la TCAI. Alors ça, c'est une étude qui est menée d'un point de vue plus fondamental, de recherche fondamentale. Est-ce que la transe cognitive auto-induite permet aux individus de regagner en estime de soi, d'améliorer leur bien-être, etc. Donc si on prolonge ces réflexions, ces recherches appliquées au domaine clinique, on va tenter de montrer par exemple que peut-être la TCAI peut être une ressource thérapeutique pour accompagner des patients par exemple dans des situations de dépression, dans des situations d'anxiété, de troubles anxieux. C'est vraiment l'orientation future la plus court terme en termes cliniques que l'on ait. Thank you.
Et c'était Audrey Breton qui dirige l'Institut Trans Sciences. Samuel Sauquet, la trans pourrait donc aussi guérir ?
Bon, à ce jour, on n'en sait rien de manière certaine. Audrey Breton évoque des hypothèses qui sont à l'origine des études scientifiques en cours, mais comme elles n'ont pas encore été publiées, on ne peut rien en conclure pour le moment.
Donc, on est là dans une approche intégrative de la santé, c'est ça ?
Oui, Karine, c'est ce qui est intéressant parce que, notamment en oncologie, le but n'est évidemment pas de guérir le cancer grâce aux états trans, mais plutôt d'accompagner des malades par ailleurs soignés par radio, chimio ou immunothérapie.
Et à ce propos, vous avez rencontré la chercheuse qui a mené ses travaux sur la trans, sur des personnes soignées pour des cancers au CHU de Liège en Belgique.
Oui, il s'agit de la professeure Audrey Van Oudenhuys, qui est médecin et neuropsychologue. Alors l'étude qu'elle conduit avec la professeure Olivia Gossery porte sur 160 patients qui ont été traités pour un cancer en phase de rémission. Qui ont choisi la transcognitive, la méditation ou l'hypnose comme un traitement complémentaire.
Attendez, alors c'est quoi la différence entre la transe et l'hypnose par exemple ? Je suis un peu perdue là.
Justement, c'est la première question que j'ai posée, moi aussi j'étais perdue. J'ai posé à la professeure Van Oudenhuys, au fond c'est quoi la transe ?
La transe, c'est un terme générique qui est valable pour tous les états de conscience modifiés. Donc on s'intéresse à des transes hypnotiques, à des transes induites par la réalité virtuelle combinée à l'hypnose, par des transes alors induites par des pratiques qui sont héritées de traditions chamaniques et qui ont été occidentalisées, dont la transe cognitive auto-induite, mais pas uniquement. Donc notre intérêt, c'est de comprendre comment cette transe héritée de ces traditions chamaniques, qui sont exemples de tout rituel chamanique une fois qu'elles sont occidentalisées, comment est-ce que cela fonctionne au niveau des processus, comment est-ce que cela fonctionne au niveau du cerveau, au niveau des paramètres corporels, mais aussi quel est le vécu subjectif ou la phénoménologie des personnes dans ces états particuliers de transe. Et l'idée, c'est de voir est-ce qu'on peut trouver des similitudes par rapport à l'hypnose, par rapport à ces autres transes que l'on connaît mieux, ou des différences. Et notre première démarche, ça a été, avec Olivia Gossery, d'observer ce qui se passe dans le cerveau d'une seule personne quand elle est dans cet état de transe cognitive auto-induite à l'aide d'une stimulation magnétique transcrânienne qui permet d'envoyer des stimulations dans le cerveau et puis de regarder comment le cerveau va réagir quand la personne est en état de conscience ordinaire et quand la personne est en état de transe. Donc, on a fait cette première étude avec Corinne Sombrin. Et là, on a pu voir que chez elle, en effet, le cerveau va réagir différemment. Quand on stimule des régions cérébrales au niveau frontal, donc à l'avant du cerveau, ou alors au niveau plutôt à l'arrière du cerveau, on voit qu'il y a une augmentation ou une diminution de l'amplitude de la réponse du cerveau quand Corinne était en état de transe cognitive auto-induite. Notre hypothèse, c'est que quand Corinne rapportait dans cet état de transe cognitive auto-induite, elle rapporte aussi que sa conscience d'elle-même, donc la conscience de soi et la conscience de l'environnement, que ces deux types de conscience sont modifiées. Et ce sont des régions cérébrales qui sont impliquées dans ces processus liés à la conscience de soi et de l'environnement. Donc l'hypothèse, c'est qu'en effet, la transe cognitive auto-induite va modifier les réseaux du cerveau qui sont liés à la conscience de soi et les réseaux du cerveau qui sont liés à la conscience de l'environnement. La deuxième étape, c'était de dire, OK, maintenant, on va regarder chez un groupe de transeurs qui pratiquent la même technique, la transe cognitive auto-induite. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Qu'est-ce qui se passe aussi au niveau du corps? Donc, au niveau de la respiration, du rythme cardiaque. Et qu'est-ce qui se passe également au niveau de la phénoménologie? Au niveau du ressenti de la personne. Donc, on a 27 transeurs qui ont participé à une étude dans notre laboratoire, chez qui on a enregistré tous ces paramètres. On n'a pas encore tout analysé, tout publié, donc je peux partager avec vous aujourd'hui ce qui a déjà été publié. Donc au niveau de la phénoménologie, donc du vécu de la personne en elle-même, et on voit que quand la personne est dans l'état de transe cognitive auto-induite, le discours est vraiment spécifique. Elle va rapporter, par exemple, davantage de perception d'éléments liés à la nature. La perception de la présence d'un ou plusieurs animaux dans son discours. Plus aussi de perceptions sensorielles, donc qui proviennent de l'environnement, davantage aussi de perceptions liées au corps physique, des gargouillements dans le ventre, ou des perceptions liées à tout ce qui est somatique, et aussi une sensation que une plus grande difficulté à décrire les pensées. Donc c'est plus difficile de mettre des mots sur ce qui a été vécu. Et on voit que c'est vraiment spécifique à l'état de transe par rapport aux autres états, imagination et état de conscience ordinaire.
Là, vous citez des éléments qui sont tangibles, une sensation, oui, un gargouillis dans le ventre. Et puis, vous citez des éléments, par exemple, la présence d'un animal. Est-ce que c'est quelque chose qui ressort de l'imagination, d'une hallucination? Vous interprétez ça comment?
Ben, c'est différent de l'imagination, puisqu'on a demandé aussi aux personnes d'imaginer. Donc, on leur a fait faire l'exercice d'imaginer une transe déjà vécue. Et donc, on voit que ce n'est pas la même chose que l'imagination. Donc, après, allez-vous dire... D'où viennent ces informations, d'où viennent ces perceptions de la nature, de personnes présentes ou pas présentes, vivantes ou décédées? Ça, on n'a pas encore la réponse à la question. Mais par contre, en tout cas, on remarque qu'il y a quelque chose vraiment de particulier quand la personne est en état de transe par rapport à ce qu'elle ressent et ce qu'elle perçoit. Ça, c'est la conclusion qu'on peut faire pour le moment. Et en parallèle, chez les mêmes 27 transeurs, on a pu aussi mettre en évidence, grâce à une collaboration avec notre collègue Victor Oswald au Canada, que le rythme cardiaque et la respiration de ces transeurs étaient modifiés lorsque les personnes étaient en état de transe par rapport aux autres conditions de nouveau. Donc il y a quelque chose au niveau du corps aussi qui est spécifique à la pratique de la transe. C'est vraiment des outils qui nécessitent une implication de la part de la personne et qui le rendent responsable aussi de l'amélioration de son bien-être et qui vont lui redonner du coup de l'autonomie pour pouvoir se sentir mieux par rapport à la problématique qui le concerne.
C'était la professeure Audrey Van Oudenhuys, directrice de recherche au CHU de Liège en Belgique. Mais dites-moi Samuel Sauquet, est-ce que ce genre de travaux suscite encore la méfiance dans la communauté scientifique?
De moins en moins, parce que les recherches autour de la transe s'appuient sur des dizaines d'années de recherches sur la méditation, sur les psychédéliques ou l'hypnose. Et tous trois génèrent aussi des états modifiés de conscience. Ils sont désormais enseignés dans des facultés de médecine et même prescrits dans des hôpitaux universitaires. C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler que la transe ne remplace en aucun cas la médecine et que c'est une pratique qui n'est pas protégé, donc attention à qui vous vous adressez.
Alors Samuel Sauquet, ça c'était le premier épisode. On vous retrouve la semaine prochaine pour fêter la nouvelle année. Vous allez nous parler de quoi?
Alors on va aller à la rencontre de personnes qui ont appris à pratiquer la transe cognitive auto-induite.
C'est ton cœur de lumière. Nous aimerons la douceur de l'hiver avant la sueur et les calices de l'enfer. Loin de toi, je nous y vois et repense à tout ça comme si le temps n'allait jamais compter. Nous oublions le sommeil comme quand le soir nous soulage de nos amours glaciaires, avec ton corps pour seule couverture sanctuaire. Nous chanterons nos âmes à la mer avant que le monde fonde nous incinère. Moi et la terre à l'envers, loin des humains, empires, croisades à faire, loin des déchus, déchets de chair, je t'emmène au loin que nos cœurs s'envoient en l'air comme si le temps n'allait jamais compter. Nous oublions le sommeil comme quand
Amour polaire. C'était Nicolas Fraissinet, extrait de son dernier album. Sur RTS Première, il est 8h45. On vous retrouve Delphine Gendre pour On fait quoi ce week-end ? Et vous avez une proposition à nous faire du côté de canton de Fribourg, à Estavayer-le-Lac. On part à la découverte d'un itinéraire de crèche.
Exactement, je suis là au château d'Estavayer-le-Lac, dans la cour du château, en compagnie d'Amanda Roulin, qui est responsable marketing à l'Office du tourisme d'Estavayer. L'Office du tourisme qui organise depuis bientôt 30 ans un itinéraire des crèches dans les rues de la cité médiévale. Bonjour Amanda.
Bonjour.
D'où est venue l'idée de créer un itinéraire dans cette ville d'Estavayer autour des crèches ?
Alors, l'initiative, elle date de 1996. C'était à l'origine la directrice de l'époque, donc Isabella Drault, qui avait envie de rendre plus chaleureuse et lumineuse la période de Noël. Et puis, il y avait à l'époque donc deux concours qui ont été lancés pour inciter les habitants à participer. Et puis, il y avait un concours qui récompensait la plus belle crèche et un autre pour la plus belle maison décorée. Et puis, c'est vrai que ça a rencontré un franc succès. Donc, depuis là, en fait, il y a l'itinéraire qui existe donc depuis 28 ans.
Depuis 28 ans. Et il y a combien de crèches cette année qu'on peut visiter ?
Alors, il y en a 96, réparties vraiment dans toute la ville d'Estavayer. Donc, autant dans la vieille ville que dans la périphérie d'Estavayer. Donc, c'est une année record.
Une année record. Alors, il y a des crèches de toutes sortes. Là, nous sommes à côté d'une crèche qui s'appelle, n'a pas vraiment de nom. On va peut-être s'approcher un tout petit peu. Venez.
Delphine Gendre, crèche... vous m'entendez ? Oui. Je vais peut-être, je pense qu'il y a un problème de câblage parce qu'on vous entend, puis après on vous entend moins bien. Donc c'est... si vous vous déplacez, alors... peut-être faire attention au micro.
On ne va pas trop se déplacer. Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je vous entends bien.
Bouger voilà. Le micro. Alors nous sommes à côté d'une crèche avec des personnages comme des poupées, n'est-ce pas ? Pas avec des jolis tissus, et ça s'appelle la crèche Humbert de Savoie. On en parlera peut-être dans quelques minutes avec sa créatrice qui est avec nous aussi. Mais tout ça pour dire, Amanda Roulin, qu'il y a des crèches de toutes sortes ici.
Oui. Oui, tout à fait. Alors, il y a de la crèche traditionnelle aux crèches un peu plus originales. Il y en a vraiment pour un peu tous les goûts. Donc, des traditionnelles aux plus contemporaines.
Par exemple, une crèche en Lego, notamment.
Oui, alors il y a vraiment des crèches en toutes sortes. Alors vraiment, sur les 96, vous avez du choix.
Alors, je vais passer la parole à Cécile Dufay. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Vous êtes une des créatrices de ces 96 crèches. On vous appelle la fée follette des crèches d'Estavayer, c'est ça ?
Des fées, oui, la fée follette des crèches de Noël.
Pourquoi ? Vous êtes une grande passionnée de crèches.
Oui, je suis un peu folle. Mais j'adore faire ça. Je trouve que c'est le plus beau bricolage qu'on puisse faire. Un enfant, un nouveau-né, des parents émerveillés, des bergers, des rois mages. Et puis en plus, ça met des paillettes, des étoiles dans les yeux des visiteurs.
En fait, depuis la première édition, depuis 1996.
Oui. Mais j'en faisais une ou deux. Et puis là, j'en ai fait un peu plus.
Vous en avez fait combien cette année ?
J'en ai fait 13 et puis on m'a demandé d'une 14e.
Alors, votre spécialité, c'est quoi ? Elles sont comment, vos crèches ?
Alors, mes crèches, elles peuvent être petites ou grandes comme des vrais personnages, en bois, en sagex, avec beaucoup de tissus. Surtout les anges, ils ont des beaux cheveux en angora, parce que j'aime qu'ils soient doux. Et puis, mon pistolet à colle, vraiment, alors, je l'emploie beaucoup à échauffe, parce que et je trouve que ce serait le seul pistolet qu'on devrait avoir sur Terre pour coller les cheveux des anges et les ailes.
Donc il y a un message de paix aussi dans vos crèches. Ça vous tient à cœur de faire quelque chose de à la fois magique mais aussi paisible.
Oui, j'ai fait une crèche pour la paix en Ukraine avec des petites filles habillées en ukrainienne avec la tiare de fleurs, les rubans. Et je me suis documentée, quoi, puis savoir un peu leurs coutumes. Et puis j'ai vraiment fait une crèche ukrainienne il y a 2 ans.
Alors oui, d'où viennent les idées ? Est-ce que l'actualité vous porte dans la création de vos crèches ?
Oui, enfin les choses qui me touchent, hein, et puis les choses positives. Par exemple, les 80 ans du Petit Prince, j'ai fait la crèche du Petit Prince avec le renard, la rose, et puis... un mouton.
Mais disons, ce n'est pas comme carnaval où on prend des thèmes d'actualité pour les inventer en crèche. On n'est pas dans une forme de caricature non plus. Hein.
Ah non, pas du tout. Moi, j'aime que ce soit merveilleux, et que ça donne de l'espoir.
Quel est votre rapport à la foi, à la religion? Parce que la crèche, rappelons-le, c'est quand même la représentation de la nativité. Est-ce que vous êtes croyante?
Oui, je suis croyante. Et je dis aux non-croyants, si on avait écouté le message de cet enfant, la terre aurait une autre gueule. Hein.
On ne vous entend plus, Delphine.
Pardon, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends mieux. Voilà. Je pense que c'est un câblage au niveau qui entre dans l'appareil téléphonique. À mon avis, c'est là le problème.
Oui, est-ce que vous voulez que je tente une...
On continue comme ça.
Est-ce que vous m'entendez mieux?
Oui, mieux.
On va continuer comme ça. Donc, j'entends que vous m'entendez plus. Est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Oui. Donc je vais reprendre peut-être ce que Cécile a dit par rapport à sa foi aussi. Redites-le-nous, peut-être Cécile, vous êtes croyante, n'est-ce pas?
Oui, je suis croyante, oui.
Que représente donc la crèche pour vous?
C'est le début, c'est la naissance de cet enfant de paix. Et si on l'avait écouté, la terre serait très différente, hein.
Alors aujourd'hui,
d'amour.
Aujourd'hui, qui vient visiter, qui vient faire cet itinéraire des crèches? Peut-être là, je repasse la parole à Amanda Roulin de l'Office du Tourisme.
Oui, alors c'est principalement une activité familiale, mais c'est vrai que ça peut être un peu tout public qui sont sensibles à la magie de Noël, qui ont envie de découvrir un petit peu la ville de Savaillé sous un angle avec des lumières un petit peu féeriques.
Et ça vous amène vraiment un nouveau public qui découvre cette ville. C'est aussi pour vous le tourisme, l'Office du Tourisme, une activité une vitrine pour le reste de l'année aussi.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que ça nous amène aussi un nouveau public et puis qui a envie peut-être de revenir à une autre période de l'année. Donc c'est vrai que c'est un petit peu maintenant notre activité phare de l'hiver et puis ça permet aussi de un petit peu faire vivre cette saison froide.
Combien de visiteurs viennent durant cet itinéraire?
Alors cette année, on estime environ à 10 000 personnes. On verra un petit peu à la fin de cette saison ce qu'il en sera.
Ça vous coûte combien à l'Office du Tourisme? Parce que ce sont des bénévoles qui font ces crèches.
Alors au niveau du montant précis... ça, je ne saurais pas vous dire malheureusement, mais c'est vrai qu'il y a une participation de l'Office avec les créateurs de crèches. C'est vrai que sans eux, on ne pourrait pas faire cet événement. Donc nous, on rembourse une partie des frais pour les créateurs du matériel.
Et vous, ça vous coûte combien, Cécile, de faire toutes ces crèches? Vous en avez fait 13 ou 14. Il y a du matériel, ça coûte cher.
Ah, mais ça, c'est remboursé. Alors, c'est pas un souci.
Et ça vous prend des heures aussi?
Ah, ça me prend tout le mois de novembre. J'ai besoin qu'il fasse froid, de pouvoir allumer des bougies, pour avoir envie d'entrer dans ce monde-là.
Il faut être dans l'ambiance déjà de l'arrivée de Noël.
Alors, comme je fais ça sur la table du salon, je déjeune avec les anges, je dîne avec les bergers et je soupe avec les rois.
Delphine, c'est la question que justement je voulais poser à votre invitée Cécile Dufay. C'est à partir de quand on commence une crèche? C'est quand il commence à faire froid en fait, c'est à vous entendre, c'est ça?
Alors oui, je vais lui poser la question parce qu'elle n'a pas pu l'entendre. À partir de quand, justement, Karine Vasarino vous demande, à partir de quand on se met dans l'ambiance, dès qu'il fait froid, on commence à avoir envie de faire des crèches?
Oui, au mois de novembre, souvent. Là, j'ai vraiment envie, il fait froid, et puis on entre dans un mois que les gens n'aiment pas, mais moi je le trouve merveilleux parce que je suis avec mes bergers, avec mes anges, avec mon nouveau-né. Et puis, c'est la création, quoi. Il y a les plumes qui volent, il y a le pinceau à paillettes. Je dois faire attention de ne pas touiller la soupe avec le pinceau à paillettes.
Jusqu'à quand est-ce qu'on laisse la crèche sous le sapin ou dans le salon, Cécile?
Ah, chez moi, c'est un peu plus long parce que je dois défaire 14 crèches cette année, alors... Oui, c'est jusqu'au 6, normalement.
Officiellement
jusqu'au 6 janvier.
Merci. L'itinéraire, encore juste un mot, l'itinéraire, on peut le voir jusqu'à quand, on peut le faire jusqu'à quand, Amanda?
Alors ça sera jusqu'à justement au 6 janvier que vous pourrez venir visiter cet itinéraire.
Merci.
Gratuit.
Merci. Merci beaucoup Delphine Gendre pour ce moment passé qui était un petit peu aléatoire en termes de lignes. On va vérifier le câblage pour la prochaine fois. Vous étiez donc en direct d'Estavayer-le-Lac. On peut voir cet itinéraire de crèche Sandra Timmerny.
Et on se rappellera des paillettes sur la soupe.
Oui, les paillettes, le pistolet avec les cheveux d'ange en angora. C'est jusqu'au 6 janvier. Merci beaucoup Sandra Timmerny. Je vous dis à la semaine prochaine.
À bientôt.
Vous serez avec Pascaline Sordet, mais là on écoute Nina Simone. Just cares for me. C'était Nina Simone sur RTS Première.
Infotrafic RTS.
La circulation s'écoule pour l'heure sans difficulté en Suisse romande. Une information qui concerne les cols. La Forclaz est enneigée et interdite aux trains routiers et aux semi-remorques. Le col des Montées est fermé en raison d'un risque d'avalanche. Faites attention. L'inforoute en continu, c'est aussi sur le site rts.ch/trafic.
Infotrafic RTS en collaboration avec les CFF et le TCS.
Et pour en savoir plus sur l'état des pistes de ski, la montagne, la neige, vous pouvez réécouter Robert Bolognesi. Il était tout à l'heure, juste avant le journal de 7h, dans cette émission 6h-9h le samedi, que vous pouvez retrouver donc sur le Play RTS. Aujourd'hui, il y avait en régie Jonathan Astley-Bacher. Merci à lui. Il nous fait un petit coucou.
Coucou.
Et puis, c'était Luana Biadici qui s'est occupée de la réalisation, en pré-prod, comme on dit, selon le jargon ici. Sandra Timmerly, merci beaucoup. Vous étiez là pour la revue de presse. Vous revenez donc la semaine prochaine.
Oui, oui, avec grand plaisir.
Mais pas moi. Vous serez avec Pascaline Sordet. Merci à Vicky Garraud, qui était également notre attachée de production. Maintenant, place aux informations et vous pouvez d'ores et déjà régler vos montres.
L'heure avec RTS Première.
Il est 9h sur RTS Première, juste après les infos, prise de terre avec Lucille Solari.